Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast pour un nouvel épisode pour parler un petit peu du light side. On a beaucoup parlé du dark side en fait sur le podcast parce que je pense que c'est important de comprendre l'ombre. Une fois qu'on comprend mieux l'ombre, on comprend aussi mieux la lumière, à quel point elle est importante, à quel point elle est centrale et à quel point elle est indissociable en fait de l'ombre. Elle est toujours pas très loin derrière, ça marche dans les deux sens évidemment. Donc je me suis dit qu'après avoir parlé du dark side pendant plusieurs séries, on va commencer à se concentrer un petit peu sur la dimension positive, bénéfique, lumineuse en fait de chaque signe. C'est pas la première fois que je fais ce type d'épisode-là. Si vous allez sur la chaîne YouTube ou sur le podcast et que vous cherchez une mini-série qui s'appelle For Better or Worse, donc pour le meilleur et pour le pire, je parle déjà de la dimension positive des signes. La dernière fois, on s'est arrêté à la balance. Et là, dans cet épisode-là, on va évidemment parler du reste du Zodiac. J'ai un rendez-vous à 9h, donc je ne vais pas pouvoir être aussi long que dans l'épisode précédent, donc on va essayer d'être le plus concis possible. Et on va parler du Scorpion, du Sagittaire, du Capricorne, et du Verseau et du Poisson. Et c'est horrible, j'anticipe déjà le fait. Alors je vais me donner, allez, une bonne grosse vingtaine de minutes, ça va être impossible, mais on va quand même essayer. Donc on commence par le Scorpion, déjà c'est un gros morceau. Comme je vous l'ai dit, les signes qu'on considère comme les plus dark, c'est évidemment les signes qui ont le plus à offrir en termes de lumière. Les signes qu'on considère comme les plus lumineux, en vérité, c'est les signes qui ont le plus à offrir en termes de darkness et de mauvais instincts et de voilà. Et en ça, je trouve que le Taureau, enfin l'axe Taureau-Scorpion, c'est vraiment un cas d'école dans le sens où on a vraiment affaire ici, voilà, à des gens qui sont vraiment incompris en fait dans la société, les Scorpions ou les personnes qui ont une dominante plutonienne dans le thème, parce que, voilà, je vais pas revenir dessus, j'en ai parlé sur plein d'épisodes sur le dark side, en tout cas dans la dimension un peu plus lumineuse et élevée, c'est évidemment des guérisseurs. Et d'ailleurs, j'étais en train de parler avec un des auditeurs du podcast en commentaire de l'épisode sur Pluton en Verseau, et en fait, il disait que Roland Legrand, dans un des... Alors, je sais pas s'il a un podcast ou... Enfin bon... mais qu'en gros, il disait que justement, c'est en cette période de transition vers Pluton Verseau que la génération de Pluton Scorpion allait être testée. Juste pour que vous puissiez replacer, j'ai un épisode entièrement dédié, complet, sur la génération de Pluton Scorpion que je vous recommande vraiment d'écouter parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Aussi sur la génération de Pluton Verseau, mais au-delà de ça, en fait, je pense que ce qu'il essayait de dire, c'est que vu qu'on est une génération... un peu paracommando, voilà, qu'on a lâché sur terre en mode, voilà, vous vous démerdez, vous avez cette mission-là, boum, 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 voilà. Ben pour cette transition-là, les choses vont se dérouler tellement vite et de manière tellement brutale et violente qu'en fait, ben, il n'y aura que nous qui serons assez courageux pour dire, ben, en fait, ça, c'est plus utile, ça, ça dégage, toi, tu te tais, toi, tu bosses dans ça, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Et c'est marrant parce que la génération Pluton-Scorpion est très liée sociologiquement à la génération des millennials. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, les millennials, c'est plus ce que c'était. Avant, on était là, ah, les millennials. Maintenant, les millennials, ils ont presque 40 ans, s'ils n'ont pas déjà 40 ans. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques happy few. Alors, pour moi, ce n'est pas vraiment des gens qui ont du pouvoir parce qu'ils ont été plantés là. Mais il y a quelques millennials quand même qui ont réussi à se frayer un chemin jusqu'au pouvoir, quoi. Et vous pouvez vraiment voir en ça les Plutons Scorpions. Je pense aux candidats. Il y a en ce moment la préparation des élections américaines aux États-Unis. Et je pense à un candidat conservateur qui s'appelle Vivek Ramaswamy, qui est indien, enfin première génération d'enfants d'immigrés, blablabla. Et voilà, quoi. Il est très jeune. Je crois qu'il a 34 ans ou 37 ans, un truc comme ça. Et pareil, il est issu de la génération Pluton. En Scorpion, et ça m'étonne pas quoi, parmi les Plutons Lions, les vieux boomers, etc., qu'il y ait quelques Plutons Scorpions qui aient réussi à se frayer un chemin. Et en fait, on devrait avoir confiance. Alors, je suis pas en train de vous dire d'aller voter conservateur aux États-Unis, de toute façon, vous n'êtes pas américain pour la plupart, vous pouvez pas voter aux États-Unis, même si vous êtes aux États-Unis et que vous m'écoutez. Mais ouais, ça donne de l'espoir. Je pense aussi à Gabriel Attal en France, enfin. Les choses changent, mais en même temps, toujours dans les commentaires justement de Pluton en Verseau, j'ai eu ce débat avec les auditeurs, en fait, de se dire que Ben en fait, les choses, elles changent pas vraiment parce que c'est pas des gens qui ont le pouvoir, c'est des gens qui ont été plantés là. En fait, on exploite leur jeunesse pour pouvoir continuer à gouverner parce que justement, la population est en mode « Ah ben quand même, 75, 80 ans, c'est peut-être un peu vieux quand même pour gouverner. » Et en fait, ils se disent « Ah ben on s'en fout, on veut continuer à garder le pouvoir, donc on va absorber l'énergie de cette génération-là pour pouvoir garder le pouvoir. » Enfin bref, parenthèse refermée. Les aspects positifs du scorpion, c'est vraiment la guérison, la renaissance, la régénération et la restauration. C'est personne ne vous aimera autant qu'un scorpion. Le scorpion, il vous aime comme si l'apocalypse allait arriver demain et que vos corps allaient être carbonisés et pulvérisés par une météorite, quoi. C'est comme ça que les scorpions, ils vous aiment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous avez des amis scorpions, quand ils vous font des câlins, ils vous serrent très, 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 très fort. Et donc ça veut pas forcément dire que toutes les personnes qui ont de l'énergie du scorpion ont été abandonnées, mais il y a vraiment ce truc de « demain n'est pas promis, tout peut basculer, tout peut changer, aujourd'hui on rigole, demain tu peux mourir, aujourd'hui on rigole, demain je peux mourir ». Enfin voilà, on est vraiment comme ça les scorpions, aujourd'hui on est en bon terme, demain, voilà, parce que la nature humaine est complètement irrationnelle et paradoxale, on peut ne plus être en bon terme. Donc c'est vraiment ce truc de profiter, de chérir des moments... Voilà, moi je trouve que c'est ça en fait, le light side du scorpion, c'est vraiment d'aimer de tout son cœur, même si c'est la dernière fois, quoi. Bon, c'est un peu sombre comme thème, mais je trouve ça beau, je trouve ça passionné, je trouve ça chaud, je trouve ça... Vraiment, j'aime beaucoup l'amour des scorpions, j'ai jamais été déçu par des personnes, que ce soit en amitié ou en amour, qui sont scorpions. Après, bon, ils s'accrochent à vous comme des moules... à leur rocher, hein, mais voilà, ça part toujours quand même d'une intention de loyauté, de en tout cas s'ils vous aiment et s'ils vous respectent. S'ils vous aiment pas et qu'ils vous respectent pas, ça va être l'enfer pour vous, mais ce sera pour un autre épisode. Les Sagittaires, vraiment l'aspect lumineux. Ah, j'ai pas dit le karma. Bah, le karma du scorpion, c'est vraiment de trouver de la stabilité. Généralement, vous verrez. Le karma des signes se trouve toujours dans leurs signes opposés. Et en fait, le karma du scorpion, c'est d'arriver à cette espèce de stabilité, cette espèce de sérénité, où justement, il ne sera plus tout le temps en train de danser avec les flammes, en train de danser avec le danger, et qu'il réussira en fait à se stabiliser, quoi. C'est ça vraiment le karma du scorpion. Et pour le coup, c'est vraiment pas facile. Ensuite, on a, dans les aspects lumineux, on a le Sagittaire. On a le Sagittaire. Et le Sagittaire, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que la dimension la plus lumineuse du Sagittaire, c'est vraiment d'être humble, de reconnaître à quel point c'est un être petit et insignifiant en fait dans l'univers par rapport à la construction du cosmos. Et en fait, c'est là que toute la vérité, le côté un peu tout le côté un peu féerique et tout, il s'active, quoi. Bon, c'est pas très clair le truc du côté féerique, mais attendez. Voilà. Non, en fait, je sais pas si vous voyez la pub, c'est horrible comme référence, mais je sais pas si vous voyez la pub Frosties. Il y a une pub Frosties qui était... Je dis ça parce qu'il y a un paquet de Frosties en face de moi. Hein. C'est vraiment... C'est le matin. Il y avait une pub Frosties dans les années 2000 où c'était un peu genre Frosties slash Tomb Raider. Et en fait, t'as tout ce truc où t'es dans une espèce de jungle en Amérique latine et en fait, tu trouves la Frosties d'or et il se passe un truc de malade quand tu la touches. Genre, t'es animé, imbibé par ta propre prophétie. Enfin, j'avais trouvé trop stylé cette pub à l'époque. En fait, c'est un peu la même chose avec le Sagittaire. Enfin, justement, quand il est humble et connecté avec le monde et qu'il ne prend pas les gens de haut et qu'il ne se dit pas qu'il est meilleur ou supérieur aux autres, il y a vraiment quelque chose de magique, en fait, qui se produit. C'est comme si il se transformait en... C'est comme s'il se transformait en... Ouais, en un espèce de chevalier qui a été choisi... par le divin pour accomplir des choses, quoi. Et moi, je trouve que c'est vraiment la dimension, ou en tout cas, une des dimensions les plus positives et les plus bénéfiques du Sagittaire, quoi. Vraiment. Le karma, après, du Sagittaire, il est un peu plus complexe, puisque ici, l'idée, c'est vraiment d'explorer et de collecter un maximum d'informations, tout en ne perdant pas pied du lien avec les gens, voilà, toutes ces choses-là. C'est pas facile en fait d'être Sagittaire. Il y a beaucoup d'énergie contradictoire, je trouve, dans ce concept-là. Et du coup, c'est pas évident toujours à gérer et accepter, quoi. Ensuite, on a le Capricorne. Et là, c'est un peu intéressant parce que justement, le Capricorne. Le Capricorne, c'est. Comment dirais-je? C'est un signe qu'on associe beaucoup à la darkness. Et en fait, c'est un signe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de richesse et beaucoup de lumière à partager et à donner, quoi. D'autant plus que les signes ont des évolutions spirituelles et que l'évolution spirituelle du Capricorne, elle est extrêmement lumineuse. J'en ai déjà parlé sur le podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur la licorne et le Capricorne, puisque les interprétations en fait, qu'on se fait des signes sont évidemment pas les seules qui ont existé dans toute l'histoire de l'humanité, et qu'en fonction des astrologies et en fonction des cultures, il y a des dérivés, des variations en fait, d'un même archétype. On choisit un animal généralement pour un archétype par rapport aux qualités hein, de l'animal. Donc vous vous doutez bien qu'il y a parfois plusieurs animaux avec leurs caractéristiques qui peuvent symboliser l'archétype d'un signe. Il suffit de prendre le cancer et la tortue par exemple. Le Capricorne, son karma, il est vraiment lié. Alors c'est marrant hein, parce que je trouve que le karma du Capricorne, il est très lié au fait de transcender justement la matrice. Et c'est marrant parce qu'on ne pense pas forcément à ça quand on pense au Capricorne. Au contraire, on se dit, ah ouais, c'est vraiment un signe qui est installé dans la Matrix. Enfin, Matrix, whatever. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains Capricornes qui réussissent justement à transcender ça. Et ça ne veut pas dire que c'est des fainéants qui font rien. Mais ils accomplissent avec un but et avec une dimension qui est presque sociale, en fait. L'idée, c'est vraiment de mettre tous les efforts au service du bien. Et au service du bien commun. Et au bout d'un moment, en fait, toutes les questions qui sont liées au matérialisme, à l'argent, ben, elles disparaissent, ou en tout cas, elles s'estompent. Elles deviennent, comment dirais-je, secondaires par rapport à ce qu'il y a de plus important, par rapport à ce qu'il y a de plus élevé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le côté lumineux du Capricorne, parce que justement, quand les Capricornes sont vraiment très lumineux et qu'ils ne sont pas broyés voilà, par la réalité du travail, de la société. Les attentes des parents, etc. On a vraiment ici un signe qui aime prendre des responsabilités. On a un signe qui aime accepter les autres tels qu'ils sont et vraiment travailler dur pour pouvoir garantir aux autres un minimum de confort, un minimum de garantie en fait. Et je trouve ça tellement beau. C'est vraiment l'énergie de la grand-mère qui a déjà voilà, beaucoup travaillé, elle a beaucoup donné d'elle-même toute sa vie. Et en fait, en plus de ça, elle décide d'élever ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est l'une des plus belles énergies qui existent dans le cosmos. Et je pense que c'est pas un hasard si c'est l'une des premières énergies qui a existé dans l'astrologie et dans le zodiaque, en fait. Tout vient du Capricorne. Ensuite, on a le Verseau. Et donc, le Verseau, c'est marrant parce que c'est un peu 50-50. C'est pas forcément un signe qui est très lumineux et en même temps, c'est pas non plus le signe le plus dark. Maintenant, c'est vrai que la constellation du Verseau elle-même, elle est très très dark. Moi, je trouve que justement, c'est pareil qu'avec le Capricorne et d'autres signes. Le Verseau, il a vraiment une belle capacité à exprimer, je trouve, son côté lumineux. Et je trouve d'ailleurs que le côté lumineux du Verseau, il est très impactant. Hein, quand on regarde vraiment les personnes dans la société. Qui ont réussi à faire beaucoup de philanthropie, d'impact et tout, social, positif, etc. Il y a beaucoup de personnes qui ont du Verseau dans leur thème, en fait. Ou des personnes qui sont extrêmement acceptantes et ouvertes sur le monde et qui ont beaucoup d'Uranus, en fait, dans leur thème. Moi, je trouve que la dimension lumineuse du Verseau, elle se retrouve vraiment dans sa capacité à fédérer. Hein. Il y a un moment où le Verseau, il arrête d'être un peu le rebelle pirate, mécheux, voilà, qui veut pas se mélanger avec le reste du groupe. Et en fait, il devient cette espèce de leader par le bas, qui est en tout point supérieur au lion. Hein. Il va pas crier sur les gens, il va pas demander aux gens de changer de personnalité, il va pas demander aux gens de s'adapter à une espèce de norme, à une espèce de standard, parce que sinon, s'ils sont dessous du standard, ils valent rien. C'est vraiment, je trouve, le Verseau dans son aspect positif, c'est l'un des meilleurs leaders qui puisse exister. puisque ça va être le leader qui va transformer. C'est en fait, pour moi, le Verseau, dans ses aspects positifs, c'est un leader presque alchimiste, en fait. Il va vraiment transformer des choses qui sont, voilà, je sais pas moi, quelqu'un sur qui personne n'aurait parié. Il va le prendre et il va en faire son arme de prédilection, quoi. Il y a un côté très Verseau à ça. En ça, un personnage de fiction qui s'appelle Annalise Keating, dans une série qui s'appelle Murder, on lui attribue souvent des énergies du lion et des énergies du Capricorne, ce qui est juste pour le Capricorne. Mais je remplacerai le lion par le Verseau parce qu'elle a énormément de détachement. Et vraiment, elle prend voilà, des gens et elle les transforme, des gens sur qui personne n'aurait parié, elle les transforme de fond en comble pour qu'ils deviennent voilà, responsables. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la série, mais quand on regarde bien la série, au début, ils sont tous un peu naïfs et obsédés par elle et ils la mettent sur un piédestal. Et à la fin de la série, ils la détestent tous, mais en fait, au final, ils deviennent tous, à peu près en tout cas, ceux qui sont censés devenir. Hein, y en a qui deviennent avocats, il y en a une qui devient magistrate. Ou procureur, je sais plus, enfin voilà, et tout le monde la déteste à la fin, et moi, pour moi, c'est... Alors, j'espère quand même que tout le monde ne va pas me détester à la fin, mais s'ils ont l'espace mental pour la détester, c'est qu'elle leur a donné la liberté de le faire, enfin, c'est une meuf assez intelligente pour manipuler les gens jusqu'au bout, et voilà, si elle leur a donné l'espace mental pour les détester, c'est qu'elle a fait son taf, parce qu'ils ont gagné en puissance, ils ont gagné en indépendance, et ils ont aussi gagné en autorité sur eux-mêmes, etc. quoi. Et c'est en ça qu'on reconnaît, je trouve, les vrais leaders. Dès lors où les personnes, elles sont aliénées et elles n'ont pas l'espace mental pour questionner en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes un leader de merde, vous êtes juste un manipulateur. Et en ça, je trouve que le Verseau est nettement supérieur aux autres signes. Ensuite, on a le Poisson. Et après, il faut que je file, sinon je vais être en retard. Le Poisson, l'aspect lumineux, bah, c'est évidemment qu'il est capable de se donner lui-même pour sauver quelqu'un ou pour sauver une situation. Donc évidemment, face à ça, c'est compliqué de faire plus. Donc vraiment le sens du sacrifice de soi, du don de soi pour que les gens aillent mieux, pour que les gens se sentent mieux. C'est vraiment la qualité et la caractéristique principale du Poisson. Maintenant, au niveau du karma, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est réel. Le Poisson doit apprendre à définir des limites. Le problème du Poisson, c'est qu'il est trop boundless. Hein. La vie, elle est belle, tout le monde est gentil. Un jour, je vais déjeuner chez machin, l'autre jour, je vais habiter chez machin, et puis on vit tous en communauté kumbaya. Voilà. Sauf que dans ce monde-là, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et je ne dis vraiment pas ça en mode... Enfin, moi, je suis chrétien, hein, donc je ne vais pas remettre en cause des principes chrétiens, voilà, des principes qui ont été inculqués par le Christ, etc. Mais bon, il faut quand même se réveiller et se dire qu'on vit dans un monde qui n'est pas forcément très... qui n'est pas forcément très accueillant par rapport à cette manière-là de voir les choses. Et c'est plutôt même le contraire. C'est un monde qui va nous inciter à profiter des autres. Sinon, ils vont profiter de toi, blablabla. Et en ça, il faut vraiment voir le côté lumineux du Poisson comme un idéal. Hein. C'est rare, en fait, les Poissons, je trouve, qui tombent dans un environnement sain où, justement, ils peuvent se comporter comme ça et rester safe. Hein. Souvent, les Poissons doivent construire des carapaces, ils doivent construire des protections supplémentaires parce que justement, ils ont peut-être grandi ou évolué dans un milieu où on leur a absorbé leur énergie depuis leur enfance, quoi. Et ça, c'est un peu triste, j'ai envie de dire. Toujours dans la configuration du Poisson, on peut parler aussi du karma, hein, du Poisson. C'est vraiment de définir des limites claires entre lui et les autres, hein, de définir des limites claires. De savoir aussi pourquoi est-ce qu'il est là. Ça, c'est pas évident non plus à gérer, mais voilà, le Poisson, c'est un signe qui est beaucoup associé à la confusion. Et je pense que le fait que ce soit le signe d'exaltation de Vénus, ça aide pas forcément à être proactif, travailleur, bosseur acharné, etc. Je pense que plutôt, voilà, y a un côté un peu se laisser aller, se la couler douce, la vie est belle, etc. Moi, je connais plein de Poissons et... je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais c'est vraiment un trait de caractère que j'ai retrouvé chez tous les Poissons que je connais, avec des variantes évidemment. Mais globalement, c'est un signe qui est extrêmement lumineux. C'est marrant parce que c'est un signe qui est extrêmement lumineux, mais c'est aussi un signe qui est extrêmement dark, en fait, je trouve, parce que déjà, c'est un signe nocturne, c'est un signe féminin, c'est un signe qui arrive à la toute fin. Donc, il y a vraiment ce côté, comment dirais-je d'accumulation et de coagulation des énergies. Hein, donc, c'est pas très sexy, hein, comment je le dis, mais ouais, c'est vraiment comme ça que je vois l'énergie du poisson, quoi. Voilà, voilà. En conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que tous les signes ont évidemment une dimension lumineuse. Et on l'apprécie et on l'accepte et on est reconnaissant pour cette dimension lumineuse. Mais voilà, je ne vous cache pas que dans le monde dans lequel on vit, on a plus tendance à rencontrer la dimension négative et dark en fait, du signe que la dimension lumineuse qui demande, je trouve, un certain travail, en fait. Et tout le monde n'est pas toujours prêt à fournir ce travail. Alors, comme vous le voyez, Salvador au Brésil est en train de se réveiller. Et sur ce, je vais aller à mon rendez-vous. Et je vous embrasse et je pense que le temps que cet épisode sorte, le webinaire sur l'entrée de Pluton en Verseau aura déjà lieu. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le mois de janvier se termine bientôt et le mois de février, je vais vraiment le dédier à des consultations en direct et en physique. Donc si vous souhaitez des consultations à distance, etc., en visioconférence, c'est maintenant qu'il faut réserver par mail à mythoastral@gmail.com. Vous réservez votre consultation avec moi si vous avez des questions sur votre thème. Voilà, voilà.